1. L'homme est un animal parlant. 2. Tous les animaux parlent. Du coq à l'âne, de fil en aiguille, de l'un à l'autre, marabout bout de ficelle, plus un, plus un, plus un, au fil du temps, récit de vie. Je suis sceptique. 1000. En 1000 fragments consciencieusement numérotés, une phrase ou une page, Olivia Rosenthal raconte des histoires de vie, la sienne et celle des autres. Ici, l'histoire de quelques funambules, car il est question de vertige, d'équilibre et de passage dans ce nouveau roman intitulé « Une femme sur le fil ». Bonjour Olivia Rosenthal.
Bonjour.
Ce qui frappe dans ce livre, c'est la forme. Pas de chapitre, pas de page pleine, une narration éclatée. J'évoquais, ou j'utilisais plutôt le mot de fragments, mais est-ce que c'est cela ?
Ben oui, vous avez très bien présenté le livre, 1, 2, 10, 20, enfin voilà, c'est... Oui, l'idée c'est d'écrire des phrases, c'est presque plus que des fragments, c'est de travailler le phrasé, le rythme, et d'essayer de voir où ces phrases, l'une après l'autre, peuvent m'emmener, en essayant de les scander. Donc la numérotation est une manière de scander les phrases. Et aussi, on le comprend à mesure, il y a quand même un objectif. C'est que quand on numérote, on a l'impression qu'on va quelque part. Ça, c'est important aussi. Et on y va, mais on ne sait pas très bien où, en tout cas quand on commence.
Vous les avez écrites, ces phrases, dans l'ordre, comme une narration classique ?
Oui, alors j'avais... Enfin, ça, c'est un des éléments importants de l'écriture et peut-être de la lecture. C'est l'idée que j'ai essayé d'écrire à mesure... Et que peut-être que le lecteur va le sentir, c'est-à-dire que je découvre en fait des choses en écrivant, et j'ai envie de garder ce rapport à la découverte. Et il me semble que le lecteur, lui aussi, il est un petit peu, d'abord peut-être dérouté, mais il va découvrir plusieurs propositions qui vont bien sûr s'articuler les unes aux autres. Mais au début, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant.
Et vous dites au début qu'il y avait chez vous la volonté d'écrire sans revenir en arrière. Et en même temps, vous dites, bon, quand même, je suis un peu revenu en arrière parfois.
Oui, parce que bien sûr, on se fixe...
Parce que vous mettez en scène.
C'est ça. La règle du jeu, c'est j'écris 1, 2, 3, 4 et j'avance. Mais bien sûr, quand on écrit, il y a quand même un moment où on se relit, où on est obligé de corriger, il y a des épreuves. Enfin, il y a tout un travail après qui fait qu'en réalité, oui, on intervient quand même à l'intérieur du texte. On ne peut pas simplement écrire spontanément sans jamais se reprendre.
Alors, si l'on parle d'un fil narratif ou d'un arc narratif, comment l'on passe du fragment 1, l'homme est un animal parlant, au fragment 1000, je suis sceptique ? c'est une bonne réponse.
Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. On y passe en suivant un fil qui n'est pas droit, puisque j'essaye d'expliquer que la droite n'existe pas. Donc on ne peut pas aller d'un point A à un point Z en allant tout droit. On est obligé de passer par plein de points. Donc ces points, je les découvre à mesure. Donc en gros, je pourrais dire que ce qui fait le cœur de ce récit, c'est, j'ai envie de dire, au moins deux choses. D'une part, le personnage de Zoé, qui est un personnage, une petite fille qu'on suit et qui doit fuir en fait qui doit fuir sa famille. Donc très vite on comprend que bon, je dis son oncle a les mains baladeuses, donc il y a vraiment ce personnage là qui va finalement monter sur, qui va devenir funambule. Donc voilà, ça c'est le premier fil, donc le fil funambulique. Et tout ce qui concerne les funambules, etc., et le personnage. Et l'autre fil, c'est comment on écrit un récit qui suive un fil donné. Et donc, on pourrait dire c'est le making-of du premier texte, qui est cette histoire de Zoé, qui reste quand même... Enfin, c'était ça que je voulais faire au départ. Au départ, je voulais faire un roman, comme toujours. Je me dis toujours, je vais écrire un roman qui commencera par le début et qui finira par la fin. Et je me rends compte que je crois que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, soit que je n'aime pas faire. En tout cas, il y a toujours des bouleversements, ce qui fait que ce roman devient aussi le récit de ce roman en même temps que le roman lui-même.
Comme dans la plupart de vos romans, Olivia Rosenthal, vous mêlez récits personnels et paroles de professionnels. Alors, c'était le cas, par exemple, dans « On n'est pas là pour disparaître », où vous interrogiez des médecins ou des soignants parce que le roman évoquait la maladie d'Alzheimer, ou alors des bouchers et des éleveurs dans « Que font les rennes après Noël ». Ici, ce sont des funambules. Alors, on le comprend, puisque Zoé va devenir funambule, mais il y a un va-et-vient entre les différentes voix, c'est-à-dire la voix de la narratrice, et la voix de ces funambules. On perd le fil parfois, c'est assez vertigineux. Combien il y a de jeux ?
Combien ? Je ne peux pas vous le dire, c'est le secret de la fabrication. Mais oui, c'était un peu l'idée. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais interviewer des funambules qui me racontent des choses que je trouve passionnantes, à la fois sur le rapport au risque, mais aussi sur les gestes qu'on doit produire quand on est sur un fil, le rapport à son propre corps. Enfin voilà, j'ai vraiment... c'était très intéressant ce que les funambules racontent là-dessus. Donc ils disent « je ». Et il y a des moments, effectivement, ce jeu, c'est aussi un peu moi. Ce que je me dis, moi, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir. En fait, ce qui est important, c'est de traverser le texte et de voir que toutes ces histoires se recoupent et forment une sorte de tissu, puisque c'est cette idée du fil, c'est quand même l'idée du texte, donc c'est l'idée du tissu. Et que c'est l'entremêlement, en fait, de ces voix qui fabrique, j'ai envie de dire, une espèce de pensée du risque ou de réflexion sur le risque ou sur le vertige, en fait. C'est aussi ça qui était en jeu dans le texte.
Alors, on lit en effet ce roman comme le flux d'une pensée, malgré cette fragmentation comme ça du récit. Et puis, on s'arrête parfois sur certaines phrases, quand même, parce qu'elles nous parlent davantage que d'autres. Et par exemple, sur celle-ci, « Je est une fiction qui permet de nous faire croire à la continuité de nos vies ».
Ah oui, non mais j'ai quand même écrit des trucs. oui, parce qu'en fait, on dit « je » à tous les âges de notre vie. Alors qu'en fait, on est complètement différent. Enfin, moi, je suis complètement différente aujourd'hui de ce que j'étais, par exemple, à 10 ans ou à 25. Et donc, on fabrique de la continuité aussi par notre parole. Et d'ailleurs, quand j'interviewe des gens, quand je les questionne sur leur vie, eux aussi, ils fabriquent des fictions qui sont des fictions du continu, alors que nos vies sont souvent pleines de ruptures, de discontinuités. Donc, oui, je suis en accord avec ce que j'ai écrit, donc ça, c'est pas mal.
Ça, c'est une bonne chose. D'autant que le jeu, c'est souvent un « nous ». Parce que vous le dites aussi, on est fait de la parole des autres, de la vie des autres, on est imprégné par les récits des autres.
Oui, et puis j'ai même envie de dire que non seulement on est imprégné, mais ça devient un peu notre vie. Le fait d'avoir tous ces récits en tête, moi je parle de ça parce que j'écris et j'utilise les récits des autres, mais je pense que chacun, chacune d'entre nous, on accueille en fait les histoires que les gens nous racontent. Et elles ont des conséquences, en fait. Heureusement, d'ailleurs, elles ont des conséquences sur notre vie. Et on ne sait pas lesquelles. Et je trouve que c'est intéressant, cette idée de la résonance du récit de quelqu'un d'autre en soi.
Et le récit, notamment, de Zoé sur l'un des jeux du roman.
Voilà.
Olivia Rosenthal, on va faire un peu de funambulisme en passant de votre univers à celui de Nenoui, qui est musicien et réalisateur de films d'animation. Il se définit comme un homme orchestre numérique.
Sous les nuages, la nuit tombe comme camouflage. Allez.
Sur RFI, Nénoui pour ses arbres infinis et Olivia Rosenthal pour son nouveau roman Une femme sur le fil, une digression sur le mot et la sensation d'être entre deux au-dessus du vide, ce qui est le propre du métier de funambule. C'est une fascination ancienne pour vous, Olivia Rosenthal, les funambules, parce que je crois me souvenir dans la lecture du livre que vous détestiez le cirque.
Voilà, je dis que je détestais le cirque et je l'ai déjà dit dans un autre livre qui est « Que font les reines après Noël ?» où j'expliquais que j'allais aussi au cirque avec ma mère. Alors que là, je dis que je vais au cirque avec mon père, comme quoi il y a un peu de fiction quelque part, je ne sais pas exactement où.
Ou des trous de mémoire.
Voilà. Et oui, le funambulisme, c'est quelque chose qui me renvoie au vertige et c'est vraiment un thème que j'avais déjà beaucoup, beaucoup exploré dans un autre livre. D'ailleurs, j'en parle dans celui-là, qui est cet autre livre, c'était « Ils ne sont pour rien dans mes larmes ». Et je faisais une espèce d'analyse de vertigo d'Alfred Hitchcock. Et c'était l'occasion pour moi de parler de mon rapport au vertige.
Parce donc que vous avez le vertige.
J'ai le vertige et c'est une vieille histoire. Donc j'ai toujours voulu m'expliquer pourquoi j'avais le vertige. Et donc tout le bouquin « Ils ne sont pour rien dans mes larmes », enfin tout ce passage est consacré à ça. Et là, j'y reviens un petit peu. Mais en fait, j'essaye à chaque fois de décaler les choses, de pas raconter exactement de la même manière et peut-être pas exactement la même chose non plus.
En tout cas, sur les funambules, vous êtes vachement documenté, parce qu'on apprend des choses sur les familles de funambules, et notamment celle de Nick Vallenda, qui a inventé une figure, la pyramide, c'est-à-dire qu'ils sont à 3 étages sur un fil.
Donc là, j'ai vraiment cherché des... Alors c'est fascinant, cette histoire des Vallenda, parce que, comme je le raconte dans le livre, c'est une famille qui a eu pas mal d'accidents lors des présentations des figures, et ces accidents ont suscité ensuite des tentatives pour refaire l'exercice jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire. Donc il y a eu quand même des morts. Donc je raconte toute cette histoire des années 70 aux années 2000 et quelques, où on voit comment les petits-enfants essayent de reproduire les figures. Et parce qu'effectivement, le cirque, c'est aussi... Bon, maintenant, il y a des écoles de cirque, mais quand même, le cirque, c'est aussi des histoires de famille, des histoires de famille de cirque, quoi. Et ça m'a beaucoup intéressé, oui.
Il y a donc les Vallenda, il y a aussi Maria Spelterini qui a traversé les chutes du Niagara. Il faut quand même la citer parce qu'on ne va pas oublier les femmes. Vous, l'écrivaine féministe, il faut nommer les femmes.
Oui, et non seulement c'est important parce que cette femme, elle a été très, très, elle a marché sur le fil en arrière, ce qui ne se faisait pas, c'était dans les années 1870, dans mon souvenir. Et elle est très peu citée quand on cherche sur Internet.
Mais pourquoi ?
Ben parce que c'est une femme, hein, je ne sais pas. Enfin, il faudrait réfléchir. Mais en tout cas, voilà, c'est comme dans d'autres métiers. Il y a eu des femmes, mais elles sont moins connues que les hommes.
Et puis, bien évidemment, Olivia Rosenthal, vous citez à plusieurs reprises Philippe Petit, qui est aujourd'hui un homme âgé, mais qui a fait toute une série d'exploits sur un fil, notamment relier les deux tours du World Trade Center, ou relier le Trocadéro et le deuxième étage de la Tour Eiffel. C'était en 1989.
L'inconnu dévore l'être humain. Ma préparation et protection, c'est de s'en connaître le plus possible, de manière à ce que lorsque je pose mon pied sur ce fil le samedi 26 août à 5h de l'après-midi, je ne pose pas mon pied dans un univers complètement inconnu, ce qui serait bien trop gros pour un petit être humain normal. Je suis funambule, évidemment, mais je voulais dire par là, je suis quelqu'un qui se sert du fil pour écrire dans le ciel. Je ne suis pas quelqu'un qui marche sur le fil et ne voit que son fil. Au contraire, je trouve que c'est le plus beau, c'est d'être sur le fil et de faire oublier le fil.
Olivia Rosenthal, si le funambule écrit dans le ciel, est-ce que l'écrivain est aussi un peu funambule ?
Oui, bah une femme sur le fil, c'était aussi un petit jeu. Qui est cette femme ? Est-ce que c'est effectivement une femme, une funambule, ou est-ce que c'est moi qui essaye de traverser ? C'est une traversée, en fait. Je le vois vraiment comme une traversée, le récit. Et c'est pour ça que le modèle du funambule aussi, c'est assez beau, parce que je pense que le funambule, c'est la seule personne qui marche vraiment droit. Parce que sinon, personne ne marche vraiment droit. Et ça m'intéressait, cette histoire de la droite, et de ce que ça implique de marcher droit.
Et vous dites aussi que écrire, c'est une recherche d'équilibre. Entre quoi et quoi ?
entre deux abîmes.
C'est-à-dire
mais que je ne peux pas toujours nommer, mais voilà, on est toujours en train de, on est toujours sur le point de trébucher, de tomber. Alors de tomber, ça peut, c'est, évidemment, c'est une métaphore, hein. On ne prend pas des risques inconsidérés non plus, mais de tomber, d'abord de rater, puis de pas réussir à tenir son objet. Et c'est difficile à tenir un livre, en fait. C'est difficile d'aller du début jusqu'à la fin, parce qu'on a... c'est des moments qui durent, en fait, aussi très longtemps, quand même. Ça dure un an et demi. Et puis, on a envie de lâcher. Et donc, cette histoire de tenir... d'ailleurs, il y a une des acrobates que j'interroge qui parle de cette histoire de tenir. C'est aussi ça de réussir à écrire.
Et puis, il y a aussi la forme, puisque vous êtes une écrivaine qui cherche des formes. Et pour vous, écrire, c'est trouver une forme. C'est pas simple de trouver une forme, c'est-à-dire de se renouveler, d'essayer de faire une nouvelle littérature. Est-ce que c'est votre objectif ?
Oui, c'est vrai que, enfin, en tout cas, c'est ça qui me motive pour recommencer toujours à écrire sans doute un peu les mêmes choses, mais sous des formes complètement différentes. Et là, je crois que je vous l'ai dit, mais je voulais vraiment écrire un récit et ça marchait pas du tout. D'ailleurs, je le raconte un peu dans le livre.
Avec pas mal d'humour, d'ailleurs.
Voilà, je piétinais, ça marchait pas du tout. Et à un moment, un autre texte que je commençais à écrire, qui était un texte plus une sorte d'essai sur l'écriture, je me suis rendu compte qu'en fait, les deux choses se tissaient ensemble et c'est comme une... En fait, on a l'impression que c'est une découverte, alors qu'en réalité, c'est un travail qui fait qu'à un moment, on trouve la forme qui correspond. Et je crois que là, sur cette numérotation, je suis assez contente de moi parce que je me suis quand même bien amusée. Non, mais c'est vrai, je me suis bien amusée à faire ça, en fait.
Est-ce que vous diriez que c'est un texte métisse entre le roman et l'essai, justement ?
Oui, un texte métisse, un texte hybride, un texte... Ça dépend comment on veut... Mais je dirais ça, oui.
Et vous rappelez que le métis est un tissu particulièrement résistant.
Mmh. Oui.
Olivia Rosenthal, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman. Donc c'est forcément quelques fragments. Je crois que vous commencez par 244 aujourd'hui.
Voilà, je vais commencer par 244. 244. L'un des objectifs de ce livre est d'interroger ceux et celles qui prennent de la hauteur, alpinistes, trapézistes, cordistes et funambules, de restituer leurs paroles et peut-être aussi de révéler les images latentes qui me hantent. 245. Les funambules me fascinent plus encore que tous les autres, d'une part parce qu'ils prennent le risque, d'autre part parce qu'ils se tiennent immobiles, en équilibre. 246. Finalement, ils ne font rien, ils marchent. 247. Je les regarde ne pas tomber. Cela m'émeut au plus haut point. 248. Ils veulent me faire croire qu'ils ne courent aucun danger. Ils ont de beaux arguments pour me convaincre. Ils me disent qu'il faut savoir distinguer le danger du risque. Car le risque fait partie de l'existence. Il en est la matière même, la doublure et l'essence. Alors que le danger signale qu'on a passé une limite et qu'on a perdu en conscience et en sérénité. On ne se met pas en danger en marchant sur un fil. Simplement, on accepte le risque. 249. J'aimerais les croire quand ils posent leurs pieds l'un devant l'autre à des hauteurs vertigineuses. 250. S'ils tombent, ils meurent. 251. Ils m'expliquent que ce n'est pas une option. À cette hauteur-là, on ne tombe pas, précisément parce que tous les sens sont en alerte. On est dans un état de conscience maximale. Il ne s'agit pas de commettre une erreur. Être sur le fil, c'est éprouver la plénitude absolue de l'instant, la présence à soi, un état amplifié de conscience. 252. Admettons.
Et ainsi de suite, de fil en aiguille, jusqu'à 1000. Pourquoi 1000 ? Pourquoi pas 10 000 ? Pourquoi pas 2000 ?
Alors 10 000, ça aurait été un peu... J'en parle, ça aurait été peut-être un peu beaucoup. Et 1000, ben, c'est la cible, quoi. On met dans le 1000, en plein dans le 1000. Enfin, il y a plein d'expressions qui... Et donc, c'est aussi cette idée qu'un récit, c'est une flèche. Et que cette flèche, elle doit toucher sa cible. Et donc, la cible, c'est le 1000.
On a dit, Olivia Rosenthal, que ce roman un peu particulier, un peu atypique, est entre le roman et l'essai. Mais c'est vrai que vous nous racontez beaucoup ce qu'est pour vous la littérature l'écriture. Vous dites même que c'est un discours de la méthode plutôt qu'un roman.
Oui, parce que je voulais... Enfin, moi, j'avais un modèle dont je parle d'ailleurs dans le livre, qui est un peu les Essais de Montaigne, qui est à la fois un texte, on va dire, autobiographique, qui est aussi un texte de philosophie, qui est un texte historique, qui est un peu plein de choses à la fois. Et donc, c'était un peu aussi ce projet de travailler sur la littérature, parce que c'est vrai que à force d'écrire, j'ai quand même aussi des convictions. Et j'essaye de parler un peu de mes convictions qui ne sont pas forcément celles de tout le monde.
C'est-à-dire, ça demande explication.
Bah, par exemple, voilà, je parle je critique un peu le rapport qu'on entretient à une espèce de littérature généalogique. Je parle de ces histoires, toujours ces histoires de père et de fils, voilà, et je dis bon bah voilà, ça c'est une partie de la littérature, mais peut-être qu'on pourrait imaginer d'autres manières de faire de la littérature. Par exemple, hein, mais il y a plein d'autres. Après, il y a des choses sur la ponctuation. Après, il y a des choses sur les temps qu'on emploie, parce que c'est vrai que le temps du récit, c'est plutôt un temps du passé. Pourquoi est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on écrit toujours au passé? Donc, c'est des questions que je me pose, et en fait, c'est des questions que je me pose à moi-même et qui me permettent aussi des fois de renouveler justement ma manière d'écrire.
Et qu'on lit dans le texte Une femme sur le fil, puisqu'on vous voit à l'écriture, on vous suit dans vos associations et dans les détours de votre pensée.
Oui, c'est ça. C'était l'idée aussi. C'est pour ça, discours de la méthode, au sens où à la fois j'écris cette histoire de Zoé, et à chaque moment où je l'écris, je me rends compte que ah bah tiens, là j'ai utilisé un point d'exclamation. Ah bah tiens, là j'utilise un passé simple. Voilà. Et donc je reviens sur tout ça parce que c'est la fabrique même du texte qui me questionne.
Et puis c'est un texte qui se fabrique par analogie. Par exemple, le père de la narratrice, ou en tout cas de l'une des narratrices, est ingénieur textile, tiens donc. Donc, l'un des personnages va dans une filature, et au mot de filature, vous associez le détective privé qui fait des filatures. Et puis ensuite, vous dérivez comme ça sur le mot « défilé », puisque c'est la même racine, pour rappeler quelques slogans de manif contre la réforme des retraites. Voilà, ce sont des associations assez libres. C'est comme cela que l'écriture s'inscrit, jette.
J'ai l'impression que... J'ai envie de dire que, bon, on nous parle beaucoup de l'intelligence artificielle, par exemple. J'ai envie de dire que la spécificité de l'intelligence humaine, c'est une certaine pratique de l'analogie. Et que, voilà, écrire, c'est aussi... Enfin, écrire et penser, parce que j'ai le sentiment que la littérature, c'est aussi une manière de penser, ou de s'offrir à la réflexion. C'est d'essayer de travailler les analogies, de voir jusqu'où elles nous mènent, et de produire, grâce à ces analogies, des surprises. Et c'est vrai que bon, le fil, c'était vraiment un très très beau sujet, parce qu'il y a énormément d'expressions françaises et de mots français qui sont rattachés à ce mot fil. Effectivement, défilé, filature, enfin il y en a plein. Et en fait, ça raconte plein de choses sur notre rapport à l'existence, j'ai envie de dire.
Je tisse des fils. Ça, c'est vous qui le dites, je pense. C'est vous l'écrivaine, en tout cas, la narratrice écrivaine. Est-ce que c'est le propre de l'écrivain de tisser des fils, justement ? Pas tant entre les récits, les histoires, que aussi entre, grosso modo, moi, le lecteur, et vous, l'autrice.
Oui, oui, je pense que c'est le texte, hein, c'est le tissu. Donc, c'est qu'on va réussir à fabriquer quelque chose qui ressemblera quand même à un objet grâce à différents fils qui se seront suffisamment bien entremêlés pour former une figure, quoi, en fait. Et je le vois vraiment comme ça, là, l'écriture.
Je tisse des fils, je tourne en rond. Ça, c'est le côté obsession.
Oui, bon, ça c'est heureusement, tous les écrivains ne tournent pas en rond, je pense. Mais je pense que j'ai une petite propension à l'obsession. Donc l'avantage du fil, c'est pour ça que j'aime les funambules, parce que à la fois ils sont obsessionnels parce qu'ils font toujours des allers-retours sur le fil, mais en même temps ils sont quand même obligés d'aller d'un point A à un point Z. Donc ils sont quand même obligés à un moment d'avancer. Et je me dis, c'est un beau modèle, plutôt que d'essayer de faire des cercles, de travailler la droite.
Ça veut dire qu'il faut se débarrasser du passé, de ce qui hante, justement, des fantômes.
Après, est-ce qu'on avance vers le futur? J'en sais rien. Ça, c'est notre idée un peu facile. On a tendance à penser que si on dessine une ligne, à gauche, on aura le passé, et à droite, là où on va, c'est l'avenir. Mais je ne sais pas si on avance vraiment vers son avenir. Peut-être qu'on avance aussi vers son passé. Hein. Et d'ailleurs, je parle un peu de ça dans le texte, puisque j'évoque cette histoire de tourner en rond, de la spirale. Et j'ai l'impression quand même que écrire, c'est aussi constamment approfondir, c'est-à-dire donc aussi, oui, avancer vers ce qu'il y avait avant.
Mais avancer, dans le cas de Zoé, par exemple, c'est essayer de se débarrasser de ce passé, de ces images qui la hantent, de cet oncle aux mains baladeuses, parce qu'elle a été victime de harcèlement, peut-être beaucoup plus. Et puis, dans l'histoire de la narratrice, il y a un père décédé, il y a une sœur disparue. Ce passé-là semble peser. Et vous dites, il faut avancer.
Ben, c'est-à-dire qu'on avance avec son passé. Et par exemple, le personnage de Zoé, il est intéressant aussi parce que c'est on va dire peut-être le personnage central pour qui c'est important d'avancer vers l'avenir. Et j'ai voulu suivre aussi ce personnage parce qu'en fait, elle va trouver un chemin pour se libérer de son passé. Et le fil, enfin le travail funambulique, c'est le chemin qu'elle a trouvé pour se libérer. Donc j'aime bien cette idée que c'est aussi un récit d'émancipation, en tout cas pour ce personnage.
Et qui est le seul nommé d'ailleurs.
Voilà,
parce que c'est le personnage. Il n'y a pas d'autres auteurs nommés.
Parce que c'est le personnage. Le personnage, de manière, on va dire, un peu traditionnelle, on a l'habitude de lui donner un nom. Et pour une fois, j'ai eu envie de me plier momentanément à la tradition avec ce personnage-là. Les autres, comme c'est des personnes que j'ai rencontrées, ou voilà, c'est plutôt des initiales pour pas non plus dévoiler qui est qui, mais j'ai pas... Voilà, en fait, Zoé n'a pas le même statut que les autres.
Un récit en 1000 récits, en 1000 fragments, de 1 à 1000, avec cette dernière phrase, « Je suis sceptique ». Qui dit cela ? Quel est le personnage ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est Zoé ? Est-ce que c'est un état ? Est-ce que c'est une philosophie ?
Bah, je pense que là... Alors, c'est pas Zoé, parce que Zoé, elle n'est pas sceptique, je crois. Je rapporte cette phrase à moi. Je pense que c'est « je suis sceptique », mais c'est aussi ce jeu philosophique, vous savez, c'est ce jeu... C'est le même que celui du discours de la méthode de Descartes. C'est bien quelqu'un qui dit « je », mais c'est un « je », on va dire, générique. Mais enfin, bon, je crois quand même que ce « je-là », c'est un peu moi. Je vous fais une révélation.
Mais vous êtes sceptique de quoi ? Sur
quoi ? Voilà, je raconte comment on essaye d'écrire un récit, mais je suis sceptique sur la capacité du récit traditionnel à faire avancer la pensée. Je suis sceptique sur l'existence même de la ligne droite. Je suis sceptique. Enfin voilà, tout le livre parle en fait de cette histoire d'être sceptique, c'est-à-dire en fait être sceptique, ça veut dire être entre deux états. C'est être sceptique, c'est être en état d'incertitude et de doute. C'est donc être en équilibre en fait. Hein. Le scepticisme, c'est une forme d'équilibre. C'est ça qui est beau dans le scepticisme, enfin, dans le fait d'être sceptique. C'est le fait de ne pas choisir, donc d'être dans un moment comme ça de suspension. Et en fait, le funambule aussi, il est suspendu. Donc je dirais que c'est ça, en fait. Le scepticisme, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est aussi quelque chose qui nous permet de flotter, quoi.
Le livre peut-il être lu dans les deux sens, c'est-à-dire à rebours ? Je suis tenté.
Ah,
oui, non ?
Ça, je sais pas. J'ai pas essayé, en tout cas.
Alors, on va essayer. Merci, Olivia Rosenthal. Une femme sur le fil est éditée chez Vertical et vous serez le 9 février avec Eric Abécassis, le musicien, au mémorial de la Shoah. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto. À demain.